Quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 quatre fois bonjour. Bonjour Mathieu, c'est cinq fois maintenant.
Ouais. Bonjour Denis Martin, bonjour tout le monde.
Ça va bien?
Ça va très bien lui-même.
Ouais, ça va bien. Un petit retour du froid hein, aujourd'hui.
Ah oui, ouais, c'est encore l'hiver. Hein.
Ah, c'est encore l'hiver. Mmh. Hein, encore l'hiver jusqu'à, probablement encore...
Au mois de juillet.
Ouais, mois de juillet, on va voir la prochaine saison qui est la construction routière. Vous savez, au Canada, on a deux saisons, l'hiver et la construction routière. Bon, OK, ça c'était une blague de mon papa, je la trouve encore drôle.
Ouais. Elle est bonne.
Elle est bonne. Alors, quatre fois bonjour, parce que c'est quatre fois meilleur de se faire dire quatre fois bonjour que pas du tout. Eh bien, aujourd'hui, c'est le 24 février 2026. C'est la 55e journée de l'année. Il en reste 310 dans l'année et je ne dirai pas avant quoi, parce qu'il y a une auditrice qui a dit « Hey, ça va faire, là, de nous parler du bye-bye.
» Je surveille mon téléphone pour voir si
ça va répondre. J'aime beaucoup aimer son commentaire en passant. Alors, c'est une journée aujourd'hui où il va faire... C'est frais. Hein? C'est le retour du froid. Pas aussi froid, mais c'est un petit bout de temps qu'on était épargné parce qu'on y a goûté cette année. Alors aujourd'hui, au Québec, en Ontario, on parle de moins 10 ce matin avec un ressenti de moins 20 et c'est plus froid encore dans le nord. On parle de moins 22 de ressenti. Il y a un avis de tempête de neige dans le nord ontarien, 15 cm. Et ailleurs, d'ailleurs, dans l'Atlantique, la tempête de neige là-bas tire à sa fin. Eux ont eu l'espèce de finale grandiose de la grande tempête qui a eu lieu dans l'État de... En fait, New York, la côte est américaine. Eh bien, voilà, eux ont eu jusqu'à 30 cm de neige. Présentement, c'est l'est du Nouveau-Brunswick, l'île du Prince-Édouard, et ça s'en va vers la côte ouest de Terre-Neuve, où il y a donc, on attend jusqu'à 30 cm de neige. Le froid se poursuit dans l'ouest du pays. Les autres aussi, ils goûtent aujourd'hui. On parle des ressentis de moins 22. Et sur la côte ouest, je pense que c'est la première fois depuis que je remplace à l'animation ici, depuis janvier, que je peux le dire, il y a du soleil, puis c'est plus 8 sur la côte ouest, il pleut pas. Les autres y ont passé. Aujourd'hui, hein, c'est le 24 février. Quelques faits marquants. Il y en a un qui a retenu mon attention aujourd'hui. En 1955, naissait Steve Jobs, le cofondateur d'Apple, hein, ces fameux ordinateurs et les téléphones, les iPads et tout. Il est mort en 2011, on se rappellera d'un cancer. Et je voulais aussi souligner qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la baleine, hein, pour s'occuper de ce mammifère marin qui a besoin d'être protégé. Aujourd'hui à l'émission, plusieurs sujets. On va revenir... demain, c'est la journée du chandail rose. Je ne sais pas si vous savez pourquoi, Mathieu. C'est la journée où... c'est un peu pour parler de l'intimidation à l'école. Journée qui a été mise de l'avant. Je pense que c'est des étudiants de la Nouvelle-Écosse qui ont parti ça. On va le savoir. On a un invité qui va tout nous expliquer ça tout à l'heure. Alors, je trouve que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui aussi, on apprenait des données assez navrantes sur l'état du sexisme, de la misogynie, de l'homophobie dans nos écoles au Québec. C'est pas très beau. Alors, on va aussi en discuter avec notre invité, qui est Pascal Vaillancourt, directeur général d'Interligne. On va aussi faire notre chronique psychologie sociale avec Roxane de la Sablonnière. On va parler d'espoir. Et entrevue en studio, ça va être intéressant. On va recevoir deux personnes pour parler, justement, c'est la période des impôts. Si vous êtes une personne en situation de handicap, il y a plusieurs réductions ou déductions ou crédits d'impôt auxquels vous pouvez avoir droit. Et souvent, on les oublie. Alors, on va en parler de ça. Et on va aussi avoir avec nous la chronique économie avec Michel Poitvin. On va certainement parler de la décision de la Cour suprême états-unienne de dire que les droits de douane de Donald Trump ne sont pas légaux. Et on a aussi notre chronique livre avec Anne-Marie Aubin. Alors, une émission chargée et on se voit immédiatement en musique.
Quelques fragments laissés sur le large, pris dans tes yeux, des restes de rage. Je peux les voir, te sens-tu bien ici? Mon amour, une autre page, je suis bien sur ton rivage, j'ai le cœur à l'ouvrage. Marée haute et marécage, équilibre sur la plage. J'ai le cœur à l'ouvrage, et toi aussi. J'ai retourné la terre, fait l'amour à la mer. J'ai appris à faire taire l'impossible. De la poussière dans l'engrenage, de la lumière dans nos rouages. je peux la voir. Te sens-tu bien ici? Mon amour, une autre page, je suis bien sur ton rivage. Tu le cœur à l'ouvrage. Mario, t'es marécage, équilibre sur la plage. J'ai le cœur à l'ouvrage, et toi aussi. De la poussière dans l'engrenage. La lumière dans nos rouages, je peux la voir. Te sens-tu bien ici? Mon amour, une autre page, je suis bien sur ton rivage. J'ai le cœur à l'ouvrage. Mario, tes marécages, équilibre sur la plage. Le cœur à l'ouvrage, et toi aussi. Mon amour, une autre page, je suis bien sur ton rivage. J'ai le cœur à l'ouvrage. Mario, t'es marécage, équilibre sur la plage. J'ai le cœur à l'ouvrage, et toi aussi.
Jean-François Janvier, sa chanson « L'ouvrage ».
Bon, alors juste une petite note. Pour ceux qui aiment nous écouter en balado-diffusion ou en rediffusion ou sur la page, on a eu un petit souci technique hier qui fait qu'aujourd'hui, c'est toujours pas mis dans l'émission au quotidien d'hier et celle de l'heure où l'arc-en-ciel se lève. Ne paniquez pas, ça s'en vient. C'est une... Ça arrive des fois, des petits soucis techniques. Mais c'est vraiment gentil ceux qui nous écrivent pour nous demander ça. À chaque fois, je me dis que c'est un mal pour un bien. Donc, on est écoutés, les gens sont intéressés à entendre nos émissions. Alors, ça s'en vient très, très, très vite. Alors, c'est le temps de parler des manchettes aujourd'hui. Bien, c'est un triste anniversaire aujourd'hui. Ça fait exactement 4 ans que la Russie a lancé son invasion massive de l'Ukraine. Dans une vidéo diffusée ce matin, le président Volodymyr Zelensky a affirmé que Vladimir Poutine n'a atteint aucun de ses objectifs et n'a pas réussi à briser la volonté du peuple ukrainien. Pour marquer ce jalon, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est à Kiev, on dit Kiev, je pense qu'on faudrait dire Kiev, on le prononce comme il faut en ukrainien, pour réitérer le soutien indéfectible de l'Union. Sur le terrain, la situation demeure critique. L'armée russe occupe toujours 20% du territoire et les frappes récentes sur les infrastructures ont plongé le pays dans une crise énergétique majeure. Malgré la médiation des autorités états-uniennes entamée en 2025, les négociations sont actuellement dans l'impasse, Moscou exigeant l'abandon de la région du Donetsk, ce que Kiev refuse catégoriquement, sans garantie de sécurité préalable. Le coût de la reconstruction de l'Ukraine sur la prochaine décennie est désormais estimé à 588 milliards de dollars, selon un rapport conjoint de la Banque mondiale, de l'Union européenne et des Nations unies. Et toujours dans la presse plus, le Mexique, mort de la mort d'El Mencho et l'incertitude sur le narcotrafic. On l'a dit hier, le redoutable chef du cartel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, dit El Mencho, a été tué lors d'une opération d'envergure. Si sa chute marque un point tournant pour la présidente Claudia Sheinbaum, les experts qui règne une recrudescence de la violence. Le cartel, véritable multinational du crime, présente entre 28 États américains, fonctionne selon une hiérarchie horizontale. Ça veut dire donc qu'il facilite sa restructuration. La succession s'annonce sanglante car les cartels rivaux de Sinaloa et du Golfe pourraient profiter de cette vulnérabilité pour contester des territoires stratégiques. Bien que l'opération ait été accélérée par la pression des autorités états-uniennes, l'empire économique du cartel, chiffré en centaines de millions de dollars suggère que son règne est loin d'être terminé. Le cartel Jalisco Nueva Generación est considéré comme la plus importante organisation criminelle du Mexique, surpassant désormais le célèbre cartel de Sinaloa en termes de déploiement territorial. D'ailleurs, pour les touristes, maintenant, c'est le retour à la normale. Les vols vont reprendre vers Puerto Vallarta et de Puerto Vallarta à partir d'aujourd'hui, après une suspension forcée là, par les récents affrontements. Les autorités locales rapportent que les mesures de sécurité ont été renforcées et qu'aucun blocage routier n'entrave plus la région depuis minuit. Pour ceux qui hésiteraient encore, les transporteurs maintiennent des politiques de modification flexible. Alors, les voyageurs devant partir d'ici demain peuvent modifier leur itinéraire sans frais et obtenir un crédit voyage. Et malgré le calme revenu, les compagnies aériennes assurent qu'elles continuent de suivre l'évolution de la situation de près avec le gouvernement canadien. Bon, mais plus près de chez nous maintenant, victoire sans équivoque du Parti québécois. Marie-Carline Laflamme a reconquis l'ancien château fort du PQ dans Chicoutimi hier soir avec plus de 45 % des voix, offrant une septième députée à Paul Saint-Pierre Plamondon. Le chef péquiste voit dans ce résultat un élan décisif vers les élections générales d'octobre, tout en reconnaissant que l'incertitude liée à l'administration états-unienne actuelle force son parti à la prudence quant au calendrier référendaire. Une véritable surprise vient toutefois de la droite. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime s'empare de la deuxième position, reléguant la coalition Avenir Québec à une humiliante troisième place avec à peine 12 % des suffrages. Donc, le parti de François Legault s'écroule dans la circonscription où elle avait obtenu sa plus forte majorité en 2022. Taux de participation était à 34,22 %. C'est pas mal inférieur à la moyenne habituelle de 41,74 %. Et puis, OpenAI est convoqué à Ottawa après le drame de Tumble Ridge, le ministre de l'Intelligence artificielle, Evan Solomon, rencontre aujourd'hui des dirigeants états-uniens d'OpenAI à la suite de révélations troublantes concernant la tuerie de Tumble Ridge. Il apparaît que la tueuse avait partagé des scénarios de violence armée avec ChatGPT des mois avant le drame. Bien que les systèmes automatisés de l'entreprise aient détecté ces messages, aucune alerte n'a été transmise aux autorités canadiennes. OpenAI soutient que ces échanges-là ne répondaient pas aux critères de menace imminente. Mais le ministre Solomon donc n'exclut pas que désormais il pourrait y avoir des mesures de contrôle plus fortes. Petit tour du côté des para-actualités rapidement. À l'approche des Jeux paralympiques, Radio-Canada nous dit ça, de Milan Cortina, le Gatinois Alexis Guimond s'impose comme le fer de lance de la délégation canadienne en paraski alpin. Fort de son premier globe de cristal remporté cette saison en Super G, le double médaillé de bronze agira également à titre de co-capitaine de l'équipe nationale. Il sera accompagné de 7 athlètes, dont la championne paralympique en titre Molly Jepson. Historiquement, le paraski alpin est la discipline la plus fructueuse pour le Canada, cumulant plus de la moitié des podiums d'hiver pour le Canada, pour le pays. La délégation états-unienne sera la plus imposante sur les pistes de Cortina d'Ampezzo avec 23 athlètes, alors que les compétitions paralympiques se dérouleront du 6 au 15 mars.
C'était des hauts puis des bas avec moi, tu voulais les enlever. Damn, on y pensait des tout nus, j't'ai jamais connu, faut que t'arrêtes de play. Damn, on regardait les étoiles dans le noir, mais la nuance elle était great. Damn, le love était good, le body est shape, le bill était great. Oh babe, t'as trouvé ton chemin. Coïncide dans ta tête, entre nous c'est pas la fin. You want it tonight, j'le vois quand tu fais la belle. You wanna do it, mais personne peut le savoir, she's my type, baby don't kiss and tell. Appelle-moi après le 9-5, je t'appelle éternel right. Give all you got tonight. La musique comme elle est right. My baby want it bad all night. Give all you got tonight. D'après moi, vous marchez pour ensemble. À chaque fois que je donne un peu présent, d'après moi, on se retrouve dans la chambre. Il faut jamais l'apprendre. Oh, oh, oh. Faut se voir le jour, entre nous c'est toujours la nuit. I know you love it. Et puis quand vous le faites, je sais que tu penses pas à lui. Oh, oh, oh. Parti quand j'étais au plus bas, j'ai baissé les bras, il fallait level up. Ça l'a pris des années, après des années, c'est dommage qu'on se retrouve pas au top. Back dans le plane, en route à la ville, je reçois une note, c'est mon seul. Elle est loyale envers tout mon apport, sans
chambre, j'suis dans Kiss and Tell. Appelle-moi après la night of fight. Je t'appelle et on the ride. Give all you got tonight. I'm busy coming in here to ride. My baby want it bad all night. Give all you got tonight. D'après-moi, faut marcher pour ça. À chaque fois que je te montre tes présents, d'après-moi, on se retrouve dans la chambre. Il faut jamais l'apprendre. Oh, oh, oh.
Kiss and Tell, c'est une chanson de Saint Prince ou Saint Prince.
Je pense que c'est Saint Prince, oui. Oui, oui. Ben, de toute façon, Saint Prince, Saint Prince, il est sanctifié pareil. Ben oui, ben, on est loin d'être sanctifié aujourd'hui parce que ben, dans la une hein, du devoir, en fait, en une, dans les plusieurs des quotidiens aujourd'hui, on parle de cette étude qui a été faite par la Fédération de l'enseignement du Québec qui. Autonome de l'enseignement, j'aurais dire, qui révèle qu'il y a une hausse de la misogynie, de l'homophobie, en fait, de plein de choses pas même le fun dans nos écoles. Et ça donne que demain, c'est la journée du chandail rose, un sujet qui touche le cœur de nos écoles et de notre société, un sujet qui, donc, la lutte contre l'intimidation. Tout ça arrive en même temps. Et pour en discuter, je vous le dis tout de suite, on avait prévu cette entrevue-là d'avance et puis cette étude-là est arrivée comme par hasard en même temps. On reçoit Pascal Vaillancourt, qui est directeur général d'Interligne, un organisme de première ligne dédié au mieux-être des personnes concernées par la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Pascal Vaillancourt, bonjour.
Bonjour.
Ben, avant de parler de toutes ces choses bien négatives, on peut peut-être parler de l'origine là, de cette mère rose qu'on appelle la journée du chandail rose. Ça a débuté en 2007 en Nouvelle-Écosse?
Oui, exactement, en Nouvelle-Écosse. C'est d'ailleurs né d'une situation où un jeune a vécu de l'intimidation et ses collègues, pour le soutenir, ont porté un chandail rose pour dire non à l'intimidation. Donc, c'est un geste de solidarité à la base.
Un beau geste. La campagne, donc, en 2026, c'est Ensemble, ça fait la différence. Comment cette collaboration avec le communauté queer du Collège de Montréal et l'artiste Marine Beringer, ça a vu le jour, là?
En fait, depuis, on est à la cinquième édition chez Interligne du Chandail Rose, en fait, où on a décidé d'impliquer des jeunes dans la discussion. Donc, à chaque année, on trouve un nouveau comité, on trouve des jeunes qui sont motivés à y participer. Et dans le fond, nous, c'est notre personne qui va dans les écoles, dans les cégeps, qui forme les gens, qui a fait le lien avec ce comité-là. Et l'idée, en fait, c'est de mettre les cerveaux des jeunes autour d'une table puis discuter du concept de l'illustration qu'on va mettre sur le Chandail Rose à chaque année, qui l'illustration qui va correspondre à un message de solidarité, justement, pour lutter contre l'intimidation.
Plus que jamais nécessaire. Et on y va. Le chercheur Francis Dupuy-Déry souligne une hausse de la misogynie, de la transphobie à l'école, des gestes portés presque exclusivement par des garçons. C'est un constat qu'on fait aussi à Interligne?
Oui, oui, 100%. Ça fait déjà au moins 2-3 ans là, qu'on voit une montée assez fulgurante des comportements masculinistes ou des comportements d'homophobes ou transphobes dans nos écoles. Et c'est vrai que nous aussi, on avait observé que c'est majoritairement des garçons qui ont ce genre de propos-là. Pas que, mais majoritairement. Et c'est un fléau qui est de plus en plus répandu. Là.
On parle de misogynie d'une part, hein, des enseignantes. Je pense que je ne vais pas répéter ce que j'ai lu parce qu'on a assez vu de ces choses-là, mais des commentaires très désobligeants envers les enseignantes, mais aussi envers les communautés queer et des gestes aussi de violence, de vandalisme, des drapeaux qui ont été brûlés. On a vu ça dans les médias. Puis selon Francis Dupuy-Déry, il y aurait eu une vingtaine d'incidents l'année dernière où on a fait du vandalisme envers les communautés queer, envers les groupes queer. Comment on explique ça?
C'est très difficile à expliquer. Chez Interligne, c'est sûr qu'on a notre propre théorie, on regarde ça, et on le ressent aussi à la ligne d'écoute, hein, je veux le nommer, là, parce qu'on aura 20 000 recours à nos services, et nous, ce qu'on observe, avant, on avait beaucoup plus d'appels qui touchaient les coming out, l'accompagnement de gens qui vivaient certaines difficultés en lien avec ça. Là, à l'heure actuelle, la violence est surreprésentée à la ligne d'écoute, la discrimination est représentée. Fait qu'on est dans une société qui va pas très bien à l'heure actuelle, où les discours violents sont décomplexés. Nous, ce qu'on a comme hypothèse, en fait, fait, c'est qu'ils sont décomplexés d'abord dans les réseaux sociaux. En ce moment, les réseaux sociaux, c'est quand même un fléau. Il y a énormément
de violence. Il y a zéro modération ou presque.
Zéro modération. Les commentaires sont d'une extrême violence. On voit des choses antisémites, des choses masculinistes. C'est vraiment très, très grave. Puis après ça, bien, il y a tout l'aspect des institutions dans nos organisations, le politique, les médias, la façon dont les nouvelles sont traitées. Est-ce qu'on traite les nouvelles pour faire du clic ou on traite les nouvelles pour rapporter des sujets de façon neutre?
Le fameux engagement.
Le fameux engagement, mm-hmm. entre autres. Et aussi, bien, on a vu dans les dernières années des politiciens qui se sont quand même, qui ont nommé des problématiques avec les woke, alors que les woke, leur désir ultime, c'est d'être là pour la société, d'être là pour les individus, de prendre soin collectivement des gens. On a vu des discours aussi assez problématiques sur les enjeux trans. En fait, on voit beaucoup de gens ignorants qui se positionnent sur des enjeux qu'ils ne connaissent pas à l'heure actuelle, tant dans la sphère politique que dans les médias sociaux puis les médias traditionnels. Donc ça décomplexe les discours.
Une espèce de diabolisation hein, des minorités trans.
100%. Les personnes trans sont les plus marginalisées à l'heure actuelle, sont les gens qui sont le plus affectés par le climat de violence dans les communauté queer. Puis tu sais, on parlait de misogynie, mais il faut faire le lien là, entre la misogynie puis les enjeux queer. Souvent, là, dans une société, quand les droits des femmes avancent, bien, les droits des communautés queer vont avancer aussi par la suite. Mais quand les droits des femmes reculent, on peut penser que les droits queer sont en train de reculer aussi. Donc, tout ça, c'est interrelié. Là.
Il y a quand même une montée du discours masculiniste sur les réseaux sociaux. Je pense à Andrew Tate, qui est quand même assez populaire auprès des jeunes et qui a des propos très problématiques. Et ces propos-là sont reproduits souvent dans l'école.
Oui, sont reproduits dans l'école et c'est quand même assez difficile à recevoir à l'heure actuelle. Je ne sais pas si vous avez vu récemment aussi, il y a eu l'étude du Gris Montréal aussi, là, qui ont consulté 35 000 jeunes à travers la province afin de voir leur niveau d'aisance avec l'homosexualité. On ne parle même pas de la transidentité ou transsexualité. Donc, on voit ici là, qu'il y a un grand recul. Puis c'est une des rares fois où on a vu que les générations de jeunes sont à la limite plus fermées d'esprit que leurs parents. Mmh. Donc, c'est très inquiétant.
Bon, il y a des élus qui vont pointer du doigt, puis ça a déjà été fait et ça va être fait à nouveau, qui pointent du doigt l'immigration ou la religion comme source d'intolérance. Mais l'étude là, de M. Dupuy-Derry ne dit pas ça. Selon l'expertise d'Interlink, est-ce qu'on peut pointer du doigt la religion et ou l'immigration?
Non. Chez nous, en tout cas, ce n'est pas l'observation qu'on fait. On va dans les classes pendant toute une année. En fait, à chaque année, on a un employé, deux employés qui vont faire le tour des classes. Et l'homophobie, la transphobie, on la voit partout. On la voit dans les communautés francophones du Québec. On la voit aussi, évidemment, dans l'immigration. Mais ce n'est pas vrai que l'immigration est surreprésentée dans l'homophobie et la transphobie. On le voit dans des gens qui sont nés ici. On le voit dans des gens qui ont été élevés ici avec les valeurs québécoises. Et c'est un problème qui est beaucoup plus inquiétant que c'est pas seulement l'immigration. C'est facile d'attaquer l'immigration, c'est souvent un premier réflexe qu'on a. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que les jeunes garçons ou certaines jeunes femmes aussi endossent ces discours-là, même s'ils sont nés ici, qu'ils viennent d'ici, que leurs parents viennent d'ici. Donc, c'est un problème-là.
Bon, c'est pas la première étude. Non. On a cité tout à l'heure Gris Montréal, puis eux se sont fiés sur le fait qu'ils envoient des gens dans les écoles continuellement là, pour faire de la formation. Et vos études à vous, c'est pas nouveau. Il y a aussi des sondages qui sont sortis. Et on apprend là, que je pense que ça vient d'Interlink. Vous me corrigerez là-dessus. Tu me corrigerais là-dessus, Pascal. On sait que 2 jeunes sur 3 ont déjà été victimes d'harcèlement en ligne. Là, on sort de l'école, c'est parce que ça se poursuit en ligne. En quoi la cyberintimidation change-t-elle la donne pour les jeunes issus de des communautés LGBTQ+?
La donnée, je corrige, elle ne vient pas d'Interlink, je pense qu'elle vient du Gris.
Elle vient du Gris, si je ne me trompe pas.
Mais nous, ce qu'on observe, en fait, c'est que, dans le fond, la cyberintimidation, le fait que ça se rende, c'est sur les réseaux sociaux, c'est que maintenant, les jeunes n'ont plus de pause. Par le passé, là, moi, quand j'étais à l'école, il n'y en avait pas de médias sociaux. Donc, si j'avais de l'intimidation à l'école, quand j'arrivais chez moi, au moins, j'arrivais dans un environnement qui était sécuritaire. Mm-hmm. Mais là, maintenant, les jeunes ont facilement accès à un cellulaire. Les parents donnent des cellulaires très rapidement. Ils ont facilement accès aux écrans et aux médias sociaux à la maison. Ce qui fait que quand ils arrivent à la maison, ils peuvent recevoir des commentaires haineux sur les réseaux sociaux pendant qu'ils sont dans leur environnement sécuritaire. Le petit moment où ils pourraient décrocher et construire leur relation familiale ou rester autour de leur nid familial, bien, ils continuent de recevoir de l'intimidation dans ces contextes-là.
Boy. Bon, allez, c'est la journée du chandail rose. C'est une journée quand même, c'est positif, c'est le fun. Mais quelle sorte d'action concrète proposez-vous au-delà donc de porter le chandail rouge aujourd'hui?
Bien, je veux quand même nommer aussi que la journée du chandail rose, ce qui est intéressant, c'est que oui, on voit une observation, on observe une augmentation de la haine et tout ça, mais on observe aussi cette année, de notre côté, une hausse du soutien à cette journée-là. On a, dans la première semaine, on avait vendu plus de 600 chandails. Mmh. Donc, c'est quand même une belle corrélation. Évidemment, on espère que la haine va diminuer, mais c'est quand même quelque chose de positif de voir qu'il y a encore des gens qui se tiennent et qui se solidarisent autour de ces enjeux-là.
Bien, je vais porter le mien promis demain pour l'animation de cette émission. Pour les élèves qui sont aujourd'hui témoins d'actes d'intimidation, quels sont les gestes simples et immédiats recommandés pour intervenir sans se mettre en danger?
Oui, bien, sans se mettre en danger, en fait, je pense que l'idée aussi parfois, c'est d'aller soutenir les personnes victimes une fois que la situation est passée. C'est aussi de la rapporter. Évidemment, on n'est pas obligé de la rapporter de façon... on n'est pas obligé de l'arrêter dans l'immédiat si on pense qu'on se met en danger, mais on peut aller voir un adulte après, on peut aller voir une personne qui peut soutenir. L'intimidation, c'est grave, ça peut mener jusqu'à des idéations suicidaires, mm-hmm. puis des conséquences graves pour les personnes, et ce n'est pas irréversible. Quand on vieillit, on s'en rend compte. Mais donc, de ne pas rester seul là-dedans, de ne pas laisser les gens s'isoler, parce que c'est ça qui fait des grands dommages.
Je vais faire une petite parenthèse pour parler personnellement. J'ai vécu ça toute mon école secondaire. C'était vraiment pas drôle. Et oui, on pense que la vie est finie. Mais bon, je suis quand même... presque 65 ans, encore animateur de radio. Fait que les choses fonctionnent quelque part.
C'est vrai. C'est ça. C'est difficile de se projeter dans l'avenir quand ça nous arrive.
Ouais.
Par contre, il y a toujours un avenir.
Alors, les gens qui veulent se procurer le T-shirt officiel, parce qu'on peut prendre n'importe quel T-shirt rose, mais si on veut le T-shirt officiel, on le fait comment?
Le T-shirt officiel, c'est chez Interling. Il faut aller sur le site interling.co. Les gens vont pouvoir commander leur T-shirt à travers notre boutique en ligne. Mais là, la journée, c'est demain.
C'est demain,
donc,
oui.
La livraison, ça risque d'être difficile. Toutefois, si vous avez un chandail rose à la maison, il faut le porter. On vous invite à prendre une photo de vous et la publier sur les réseaux sociaux et mettre Interling, en commercial Interling, _CO. Sur Instagram et le mot-clic « Journée du chandail rose » ou le mot-clic « Ensemble contre l'intimidation ». Donc, c'est la façon dont on peut se solidariser ensemble et montrer qu'on est plus fort que tout ça.
Ben oui, ben merci Pascal Varacourt. Puis je pense qu'on a vraiment besoin de faire ça cette année, plus que jamais, avec ce qu'on vient d'entendre. Mais merci beaucoup. Merci d'avoir pris le temps de passer à l'émission. Alors, je rappelle donc que le 25 février, demain, c'est de porter du rose. C'est plus qu'un choix vestimentaire. C'est un engagement pour créer des milieux sécuritaires pour tous les élèves, peu importe leur identité. Après la pause, nous allons avoir notre chronique de psychologie sociale. On va parler de l'espoir. Puis après, on va parler de finances. Si vous êtes une personne en situation de handicap, bien, il y a des crédits d'impôt, des réductions d'impôt auxquels vous avez droit. Et on va vous dire lesquels et on va vous dire comment faire. De notre mieux, on n'est pas des experts, mais quand même, on a des experts qui vont en parler. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, bien, c'est frisquet. C'est froid, carrément, hein? Au Québec, puis en Ontario, puis dans l'Ouest et dans les provinces de l'Atlantique, ben, vous êtes en train de passer là, enfin cette tempête de neige. Il y en a une autre là, dans le nord de l'Ontario aussi. Puis je vais le dire pour les gens qui nous écoutent à Vancouver, il va faire soleil aujourd'hui. Je pense que c'est la première fois que je vous annonce ça avec 8 degrés. Après la pause, donc, tout ça.
Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Femme, t'as des pouvoirs, t'es comme une magicienne. T'as des yeux dans le dos, tu peux étirer une scène. Des fois tu ratisses, tu peux même t'effacer. Maman, je pense pas j't'ai né juste pour faire à souper. Femme, la première en ligne pour te t'arranger. T'es plein d'amour, t'es pleine de
avec ton écoute puis ton rire. Maman, c'est pas rien que toi qui peux serrer la vaisselle.
La chanson « Femme » de Julie Aubé.
Et c'est le temps de notre chronique de psychologie sociale. Nous recevons Roxane Sablonnière, qui est professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Et puis, elle a plusieurs titres intéressants, directrice du laboratoire sur les changements sociaux, l'adaptation et le bien-être, et cofondatrice du projet Intercom. Bonjour Roxane, comment ça va?
Ça va très bien, vous aussi?
Oui, ça va très, très bien. Alors, aujourd'hui, on va parler, si j'ai bien compris, de l'espoir. Qu'est-ce qui a inspiré le sujet là, que tu abordes avec nous aujourd'hui?
Oui, bien, j'ai préparé cette chronique avec une de mes étudiantes, Camille Dumas. Mm-hmm. Puis elle m'a proposé un livre là, à lire qui s'intitule « Espoir » avec un S, donc un recueil de 4 textes qui est composé, qui a été écrit par les auteurs Nicole Bordelot, Serge Marquis, Christine Michaud et Marc Pistorio. Puis ces écrits amalgament la psychologie, la neuroscience, la philosophie, la spiritualité. L'objectif, c'est de nous aider individuellement, collectivement à cultiver l'espoir, qui est un ingrédient essentiel souvent au bien-être. Donc, j'ai pensé que dans ces moments plus incertains, parfois, dans la société dans laquelle on vit, bien, ça peut être plus difficile de retrouver espoir. Et puis, ça m'a rappelé que c'était un sujet qui était étudié scientifiquement. Mmh. J'avais le goût de m'y replonger, puis d'en discuter avec vous aujourd'hui.
C'est une bonne idée de parler de l'espoir, je trouve. Surtout après la dernière entrevue qu'on a eue où on parlait justement de peut-être de désespoir avec... c'est l'étude de la Fédération autonome de l'enseignement là, qui révèle la montée de la misogynie puis de l'homophobie puis tout plein de choses à l'école. Alors, justement, pourrions-nous d'emblée débuter avec une compréhension commune sur ce sujet? C'est quoi l'espoir?
L'espoir, c'est un sujet, comme je disais, qui a été étudié scientifiquement, mais c'est aussi un sujet qui a évolué. Puis, il n'y a pas nécessairement de consensus. Le point de départ, c'est parti de la psychologie qui relève des processus cognitifs avec un chercheur qui s'appelle Charles Snyder, de l'Université du Kansas, qui était très influent dans ce domaine. Il a travaillé principalement sur la conceptualisation, la définition pendant de l'espoir, pendant plus de 2 décennies. Donc, essayer de faire progresser notre compréhension de ce sujet. Il définit l'espoir comme un état motivationnel. Ça provient de 3 éléments importants. D'abord, les objectifs, le parcours et la capacité d'agir intentionnellement. Donc, le premier élément, c'est les objectifs. Donc, c'est des objectifs qu'un individu peut se donner, comme des images visuelles, des descriptions mentales. C'est une genre de séquence d'actions à suivre. Par exemple, si vous vous imaginez en train de courir un demi-marathon, ben vous allez projeter vos entraînements à faire pour pouvoir arriver à votre objectif. Le deuxième élément, c'est le parcours. Donc ça intègre vraiment la notion de temporalité, donc toute la notion du temps là-dedans. Donc c'est quoi? Quels sont les points, les étapes pour partir du point A pour vous rendre au point B. Donc, si vous faites, par exemple, un plan d'entraînement, vous devez préparer ou prévoir certaines séquences dans le temps, donc à la semaine 1, la semaine 2, la semaine 3. Et puis, il y a des obstacles qui peuvent arriver, puis ça nous aide, quand on a un parcours qui est plus clair, de prévenir ces obstacles, comme si, par exemple, vous tombez malade, que ça vous empêche de vous entraîner pendant 2-3 semaines, bien, avec de l'espoir, vous allez peut-être trouver une façon alternative de vous remettre sur pied pour aller vers votre objectif. Finalement, le troisième élément, c'est la capacité d'agir. Donc, c'est quelque chose qui est intentionnel, puis ça représente l'énergie qui est nécessaire pour poursuivre ce fameux parcours à travers chacune des étapes. Donc, par exemple, si vous tombez malade, bien, ça demande beaucoup de flexibilité pour modifier votre plan d'entraînement assez rapidement et puis pour pouvoir atteindre vos objectifs qui étaient prévus au départ. Cette conceptualisation, cette définition de l'espoir, c'était très dominant dans le milieu occidental. Ça appuie d'une certaine façon le mythe américain de l'individualisme, puis qui voit... Donc, qui conçoit l'humain, dans le fond, comme... Donc, on valorise l'individu avant le collectif. C'est comme si l'espoir, c'était dans une optique que l'on peut contrôler, que chacun d'entre nous peut contrôler. Ce qui manquait dans cette définition, c'était que parfois, notre environnement, ce qui nous entoure, on manque un peu de contrôle là-dessus, ce que vous évoquiez plus tôt, par exemple. Mmh. Donc, s'il y a une catastrophe naturelle, il y a des changements politiques importants, et là, on peut se perdre là-dedans. Et puis, la notion d'émotion, elle est aussi évacuée dans cette définition-là, mais qui est revenue tranquillement avec un autre chercheur qui s'appelle Schioli, qui a proposé, lui, quatre domaines à l'espoir. Si vous voulez, je peux vous parler de ces quatre domaines-là.
Oui, allons-y, justement. Oui, cette approche-là de Schioli, oui, allons-y.
C'est ça, il y a l'attachement, il y a la survie, la maîtrise et la spiritualité. Donc, l'attachement, c'est la confiance et l'ouverture qu'on a. C'est pas quelque chose qui est prédisposé chez l'humain quand on est. C'est quelque chose qu'on apprend avec nos parents, notre entourage. Donc, quand on sent qu'on est entouré et en confiance, qu'on peut s'appuyer sur les gens qui nous entourent, bien, il y a un certain attachement qui se fait dans nos relations, une certaine réciprocité aussi, puis ça ouvre la porte à plus d'espoir parce que s'il y a quelque chose de difficile qui se produit, bien, il y a des possibilités relationnelles, donc du soutien qui est possible. Okay. Le deuxième élément, c'est la survie. C'est lié au premier. Donc, on apprend à être confiant dans un monde où on est entouré, puis on peut mieux survivre quand il y a des proches autour de nous qui nous aident à faire ça. Une image qu'on peut avoir, c'est si on est toujours seul, ben, ça peut être plus difficile, par exemple, d'avoir espoir ou de continuer dans la vie, parce que quand on est dans un système où on vit bien, bien notre bien-être est reconnu par le collectif aussi, donc on n'est pas seul. Cette survie prend donc racine dans la croyance qu'il y a un univers qui est bienveillant et qui est alimenté par des actes de sollicitude autour de nous. La troisième composante, c'est la maîtrise. Ça sous-tend une détermination, c'est comme un guide, une direction. C'est vraiment de se sentir en contrôle de soi, même s'il y a des forces externes qui nous fragilisent ou qui nous déstabilisent. Par exemple, si vous courez votre fameux marathon puis qu'il y a une forte pluie ou de la grêle, ben même si vous êtes bien, si vous vous êtes bien entraîné, vous allez quand même sentir que vous êtes en confiance malgré cet obstacle, puis vous allez continuer. Vous allez peut-être même revoir votre objectif pendant la course. Et finalement, la dernière composante, qui est la spiritualité, c'est pas nécessairement la religion, ça n'a pas nécessairement un fondement religieux, c'est plutôt un système de valeurs qui nous guide. Donc, si une personne, par exemple, valorise l'inclusion, vous parliez tantôt de misogynie, tout ça, donc si quelqu'un valorise l'inclusion, ben elle va plus se diriger vers des situations où elle va incarner ce système de valeurs-là. Elle pourrait, par exemple, protéger une collègue qui est rejetée par les autres. Et puis, c'est pour ça que c'est relié à la survie et à l'attachement, parce que ça nous lie, d'une certaine façon, aux autres qui nous entourent.
Bon, maintenant, on a déconstruit ce fameux concept de l'espoir, là, que certains pourraient tout de même... Tu pourrais encore dire que c'est une croyance que l'espoir relève comme de la pensée magique. Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Bien, c'est vrai qu'on entend souvent ça, mais ça provient d'une fausse croyance. Le monde scientifique est quand même assez fort sur le fait que les gens qui ont de l'espoir, beaucoup d'espoir, bien, sont quand même plus heureux. Ça fonctionne mieux pour eux. Donc, c'est pas un désir qui est aveugle. C'est vraiment lié à notre pouvoir d'agir. Puis, ce pouvoir d'agir-là, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on surestime nos probabilités ou nos chances de réussir, mais c'est dans nos actions, nos façons d'agir et surtout de mettre l'accent sur les possibilités qu'on peut avoir dans un contexte où il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, ça nous permet, entre autres, de reconnaître qu'on a une influence sur le résultat. Donc, c'est pas un espace, ça ouvre un espace plutôt dans lequel il y a quelque chose de positif qui peut arriver. Ça nous lie directement au monde extérieur et aux autres aussi. Puis, si vous me permettez, oui. J'aimerais ça terminer avec mon auteur préféré de toute ma vie, là, c'est Dostoïevski, un auteur russe que j'aime beaucoup et qui a écrit « Vivre sans espoir, c'est cesser de vivre ».
Ah, bien ça, c'est la conclusion vraiment appropriée à cette chronique. Moi, j'allais parler aussi, j'ai l'impression qu'un peu que l'espoir et la résilience, ça se rejoint.
Oui, tout à fait. C'est les deux concepts sont liés. La résilience est un concept peut-être un petit peu plus large que l'espoir. C'est comme ça peut être même lié. Souvent, ça peut être comme du bien-être, tout ça. Ouais. Donc oui, c'est très, très lié les deux concepts, en effet.
Bon, on va pas cesser d'avoir de l'espoir. Puis c'est pas un concept cheap, c'est un vrai concept, c'est une vraie chose. Bien, merci beaucoup, Roxane Lassablonnière.
Ça m'a fait plaisir. Au revoir.
Au revoir. Thank you. oui, c'est le temps de faire nos impôts. Bien, très bientôt, hein, parce que la fin du mois de février arrive, donc la fin des REER, etc., etc., etc. Puis à partir du mois de mars, bien, c'est le temps de faire sa déclaration de revenus. Alors, l'Office des personnes handicapées du Québec lance une initiative cruciale pour soutenir financièrement des milliers de citoyens. Parce qu'au Québec, une personne sur cinq vit avec une sorte d'incapacité ou une autre, mais une part importante de cette population omet de réclamer les crédits d'impôt auxquels elle a droit. Pour en discuter, nous recevons donc Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec. Bonjour, Daniel.
Bonjour, c'est un plaisir.
Et Guillaume Parent, qui est conseiller en sécurité financière et président fondateur, j'aime le titre, de Finandicap et porte-parole de cette campagne. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
Je vais commencer avec Monsieur Jean, avec Daniel Jean. C'est quoi l'objectif premier derrière le déploiement de cette campagne médiatique en début 2026?
Bien, l'idée, c'est de faire prendre conscience aux personnes qui vivent avec une situation d'handicap, qu'il y a de l'argent qu'on laisse sur la table. Mm-hmm. Et dans le fond, il y a quand même un bon bassin de personnes qui ne demandent pas les crédits d'impôt. Et ça a un impact. Guillaume prend glisser un mot tantôt, là, mais dans le sens, si je ne me déclare pas comme personne handicapée, après ça, il y a des crédits, il y a des taxes auxquelles je n'aurai pas nécessairement droit. Donc, on sait que le fait de vivre en situation de handicap nous amène des coûts supplémentaires. Mm-hmm. Puis l'idée des crédits d'impôt, c'était d'essayer de compenser une partie de cet élément-là. Donc, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on a travaillé sur les personnes les plus vulnérables qui avaient des revenus très bas. On a travaillé sur le programme Revenu de base, qui maintenant a permis à 84 000 personnes de se rapprocher plus d'un revenu de 20 000. Quand on est une personne seule, on travaille sur les proches aidants, mais aussi, là, il faut travailler sur les revenus disponibles des personnes handicapées.
Moi, Guillaume, je dirais de ton côté, encore faut-il de s'identifier comme personne en situation d'handicap. C'est pas toujours évident. Comment on fait ça et pourquoi le faire, là?
Et en effet, c'est d'autant plus difficile quand on a un handicap invisible. Mm-hmm. Moi, j'ai la paralysie cérébrale. Hein. Bon, tu me vois, les autres ne me voient pas, mais... C'est un fauteuil roulant, je parle un peu bizarre dans le monde.
Tu parles pas bizarrement du tout,
c'est non, juste que... mais au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que les gens qui se sentent que dans leur quotidien, ils sont réanciés ou ils s'empêchent de faire des tâches au quotidien, des tâches de base, comme marcher, s'habiller, se nourrir, bien voir, bien entendre, devrait, dans le fond, télécharger le formulaire T2201 mm-hmm. au fédéral, l'équivalent au provincial TP752.0.14, et prendre un rendez-vous chez le médecin. Pour se faire reconnaître par les deux pays du gouvernement, par Revenu Québec, Revenu Canada, comme handicapé. Et comme Daniel disait, ça donne droit à une série de mesures. Tout d'abord, à une réduction d'impôts. Mais il y a beaucoup plus de mesures qui visent justement à améliorer le revenu.
Donc, le défi, c'est d'aller voir le médecin et se faire reconnaître comme personne en situation d'handicap.
Voilà.
Et ça demande... Il faut que soi-même, on soit prêt à le faire.
Oui, mais ça vaut la peine. On sous-estime les montants de dollars qu'on laisse dans les coffres de l'État si on ne va pas le faire. Donc, une bonne idée, dans le fond, avant de prendre ce rendez-vous-là, avant d'amener ces formulaires chez les médecins, moi, je conseille souvent à mes clients de prendre une feuille de papier et de lister dans la vie de tous les jours tout ce que la incapacité ou la déficience impact dans la vie tous les jours. Et ça, il y a même ça chez le médecin et la relation avec le professionnel de la santé. C'est pas juste un médecin, ça peut être une infirmière praticienne, donc, ou d'autres professionnels. Ça va mieux, ça coule mieux.
Ben, de toute façon, on peut donner l'exemple. Tu es en fauteuil roulant présentement. Ce fauteuil-là, je le vois, ça doit coûter cher. Alors, on peut avoir une déduction d'impôt, j'imagine, ou un crédit d'impôt pour l'achat de ce véhicule.
Évidemment, il y a beaucoup de fauteuils roulants ou d'appareils médicaux qui sont défrayés, oui, par la RAMQ.
Oui.
La Régie de l'assurance maladie du Québec. Mais, en effet, donc, moi, j'ai opté pour un fauteuil roulant qui est une coche au-dessus au niveau autonomie.
Mm-hmm.
Il monte les escaliers.
Ah!
Donc, j'ai fait ce choix-là personnellement. Donc, il n'est pas subventionné, mais il peut être déduit, par exemple, comme frais médical.
Bon, ben là, je viens d'en apprendre une bonne aujourd'hui. Il y a des fauteuils roulants qui montent des escaliers. Merci. Je vais sortir de cette entrevue plus intelligent, finalement. Mais vraiment, je ne savais pas. Je vais voir que je vois ça un jour. Daniel, je reviens à vous. Quels sont les types, donc, concrets là, pour des citoyens qui peuvent obtenir dans leur déclaration d'impôt, même s'ils ont un revenu modeste? Là?
Oui. Bien, l'idée, c'est qu'il y a le crédit d'impôt pour déficience grave qu'on retrouve du côté fédéral. Il y a le rapport. L'Office a demandé à l'équipe de M. Godbout à Sherbrooke de faire une étude, voir est-ce que les crédits d'impôt sont connus. Ce qui ressort de son étude, c'est que c'est peu connu, moins connu les crédits d'impôt québécois que le fédéral. Et concrètement, ça amène de l'argent dans les poches. Là. Parce que dans les faits, je vais pouvoir, premièrement, si je suis reconnu comme personne handicapée, puis j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, donc au niveau de la prochaine aidance, je vais pouvoir le déclarer. Puis juste au Québec, entre 2019 et 2023, il y a eu une augmentation de 148 de ce crédit d'impôt-là. Là. Wow. On voit que ça donne quelque chose de faire cette démarche-là. Ça, c'est à part. Si, comme personne handicapée, je fais une démarche, mon entourage et moi, je fais une démarche pour avoir accès à une maison, bien, j'ai aussi un crédit d'impôt. Il y a différents éléments auxquels on aurait droit. Ce qu'on constate quand on compare avec le fédéral, on a 125 000 personnes de moins par rapport à la moyenne canadienne qui demandent ce crédit d'impôt-là. Nous, ce qu'on dit, ces 125 000 personnes-là, OK, laissent de l'argent sur la table. C'est qu'on s'est dit, on va faire une campagne pour que les gens comprennent qu'il y a vraiment un intérêt de faire une demande de crédit d'impôt parce que, dans les faits, les gens vont dire « ça ne me donne rien, je n'ai pas de revenus ». Donc, les crédits d'impôt non remboursables, ça vient tout simplement réduire l'impôt que tu auras à payer. Mais si j'en ai pas à payer, êtes-vous sûr que vous n'en avez pas à payer? Vous n'avez pas de revenus de travail? Est-ce que vous avez d'autres types de revenus, d'une part? Deuxièmement, même si, puis ça c'est Guillaume qui m'a appris ça, même si vous faites la demande puis que vous n'avez pas de revenus, OK, ça va arriver à zéro, vous allez avoir droit à tout le reste. Donc, il y a un avantage de donner un chiffre, OK, qui pourrait faire la différence. Je pourrais dire que juste de faire un crédit d'impôt, juste faire un rapport d'impôt, puis il y avait 84 000 personnes avant le programme Revenu de base qui ne faisaient pas nécessairement un rapport d'impôt. Juste là, il y a 2-3 000 $ par année qu'on va chercher. Juste faire le rapport, là, on peut aller chercher des choses. Là, après ça, si on va chercher des déductions, l'exemple de Guillaume avec son fauteuil roulant, là, magique, bien, quand on est une personne handicapée, on n'est pas obligé de rester confiné à la maison. On va vouloir sortir. Puis il y a des coûts reliés à ça.
Oui.
Puis il y a des ajustements, des adaptations à faire. C'est pas toujours remboursé par le gouvernement, la RAMQ, mais c'est remboursé par le gouvernement impôt, Revenu Québec.
Et puis, je pense qu'il y a des crédits d'impôt qui sont non remboursables, mais certains le sont. Fait que même si on a des revenus évalués à zéro, il y a parfois moyen d'avoir un retour malgré tout, là.
Oui, c'est ça. Puis je donnais l'exemple tantôt, quelqu'un qui était dans mon entourage qui disait « je ne ferai pas de rapport d'impôt parce que je n'ai pas de revenus », mais il louait une chambre. Bien, c'est un revenu, ça. Fait que je disais, bien là, peut-être que, dans le fond, tu as tout intérêt à le faire.
Ouais,
parce que...
Et ces autres, ils viennent te chercher ça après. Ben oui. Ouais. Donc, si on veut s'informer, on va où?
Bien, on va sur québec.ca. Il y a, dans le fond, on retrouve de l'information sur les programmes. Et aussi, il y a du côté de Guillaume, je te laisserai compléter.
Oui, bien oui. Écoutez, nous, on a fait un guide direct en langage simple, en langage clair. Il y a beaucoup aussi de firmes ou d'OBNL qui offrent de l'accompagnement. Donc, écoutez, Google, intelligence artificielle, comment demander des mesures fiscales pour personnes handicapées? Vous allez avoir toute l'information et ne présumez pas, si vous faites affaire avec un comptable, ne présumez pas qu'il sait d'emblée que vous ou que quelqu'un dans votre ménage a une déficience. Dans le fond, dites-lui.
Ouais.
Dites-lui parce que les logiciels d'impôt et les logiciels fiscaux font un très bon travail dès qu'on coche la case qu'on a fait cette demande de reconnaissance-là.
Wow. Ben, merci beaucoup de nous avoir très bien informés là-dessus. Je répète donc Guillaume Parent, qui est président fondateur de Finhandicap et porte-parole de la campagne de l'Office de la protection des l'Office des personnes handicapées du Québec, dont nous recevions le directeur général Daniel Jean aussi. Merci beaucoup tout
merci.
Le monde. Merci.
Merci.
Après la pause, c'est la chronique économie et la chronique littérature. Puis je vous rappelle donc que c'est froid aujourd'hui. Ben oui, c'est encore l'hiver, alors mettez vos combines, tout le monde. Puis ça serait pire si on était dans les provinces de l'Atlantique, il y a encore une tempête là-bas. À plus.
Et au quotidien avec Denis Martin Chabot.
T'as dit des mots que je repasse dans ma tête. C'est l'attitude, l'intention, le ton peut-être. Je suis une hypersensible, sais-tu ce que j'imagine? Je m'invente des scénarios qui tournent un peu trop.
C'est le scénario qui tourne, qui tourne. C'est le scénario qui tourne un peu trop.
Quand tu dis rien, je fais l'analyse de ton silence. Je ne sais plus, je ne sais pas ce qui est vrai ou pas.
Et c'est automatique, quelque chose m'inquiète. Des pensées mécaniques qui tournent un peu trop. C'est le scénario qui tourne, qui tourne. C'est le scénario qui tourne.
Chic Macadam et sa chanson, ou leur chanson, Cesser ses scénarios.
Et c'est le temps de passer à la chronique économie avec Michel Poitvin. Bonjour Michel.
Bonjour M. Chabot.
Ça va bien?
Ça va bien vous?
Oui, c'est un petit bout qu'on ne s'est pas parlé. Oui, ça va très
ben
bien.
Oui.
Ça va moins bien pour... ça va moins bien pour Donald Trump, hein?
Bien, effectivement, la Cour suprême des États-Unis, vendredi, s'est prononcée sur la légalité des tarifs qu'il avait annoncés au printemps dernier. On se souviendra, on en a parlé souvent, là, que le président américain avait imposé toute une myriade de tarifs à un paquet de pays, à presque tous les pays autour de la planète. Mais ceux-ci avaient été contestés en cours parce qu'ils disaient que, en général, le pouvoir d'imposer des tarifs, donc on voit ça, le tarif comme une taxe, donc le pouvoir de taxation appartient au Congrès et le président ne peut pas procéder unilatéralement. Alors, il y a Costco et d'autres entreprises qui avaient poursuivi le gouvernement américain, disant que ces tarifs étaient illégaux. Et finalement, la Cour suprême s'est prononcée vendredi dernier, puis elle a décrété par une majorité de 6-3 qu'effectivement, ces tarifs étaient illégaux. Les tarifs, sans vouloir faire trop de droit, là, s'appuyaient sur une loi de 1977 qui s'appelle l'International Emergency Economic Powers Act, donc qui donne des pouvoirs supplémentaires au président lorsqu'il y a une urgence économique. Alors, c'est ce que le président Trump avait invoqué, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tant d'urgence que ça. Donc, du moins, c'est ce qu'a décidé la Cour suprême. Et donc, on dit que ces tarifs sont devenus illégaux.
Mm-hmm. Mais il y a d'autres tarifs qui ont continué à s'appliquer, par contre.
Bien, c'est ça. Je pense que ça n'a pas pris de temps. Là. Dans la même journée, il a dit, OK, on va invoquer une autre loi, puis là, j'applique les vieux tarifs ne sont plus, mais j'applique pour tous les pays un tarif égal à 10 %. Ça, c'était vendredi dernier. Samedi, il a dit non, ça va être 15, mais ce que je crois lire, c'est qu'il n'a pas écrit le décret pour le 15 %. Donc, certainement, aujourd'hui, il y a un tarif de 10 %. Les anciens tarifs tombent, mais il y a un tarif de 10 % qui s'applique à toutes les importations aux États-Unis. Ce qu'on devrait dire, c'est que les tarifs qui ont été décrétés illégaux, ce sont les tarifs généraux. Pour nous, au Canada, ça ne nous affecte pas tant que ça. Pourquoi? Mais la plupart des biens étaient sous l'égide de l'accord de libre-échange et eux n'avaient pas eu de tarifs supplémentaires au printemps dernier. Alors ça, c'est la plupart des biens qu'on exporte aux États-Unis. Mais on a subi d'autres tarifs plus sectoriels là, dans certains secteurs. L'acier et l'aluminium, des tarifs de 50 %. En fait, ça, c'est pour tous les pays du monde, mais seulement l'acier et l'aluminium. Ensuite, le contenu non américain des véhicules importés aux États-Unis, un tarif de 25 %. Donc ça touchait l'industrie automobile là, basée surtout en Ontario. Puis le bois d'œuvre, ça touche beaucoup le Québec, un peu la Colombie-Britannique, des tarifs de 45 %. Eux n'ont pas été jugés illégaux parce qu'ils avaient été invoqués avec une autre loi, une loi sur le commerce. Le président avait le droit de les imposer, donc ces tarifs-là demeurent. Peut-être la dernière chose que j'ai oublié de mentionner, sur les tarifs de 10 % avec la loi que le président Trump a invoquée, il peut juste les imposer pour 150 jours. Donc, ils sont valides jusqu'au 24 juillet. Ensuite, le Congrès devra se prononcer. Alors, c'est temporaire. Qu'est-ce qui va arriver? Chanceux celui qui pourrait prédire.
Alors, on peut parler quand même que cela, ça crée de l'incertitude là, quand même dans le monde, et notamment ici, là.
Bien, ça crée beaucoup d'incertitudes parce que là, on se demande, mais là, qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Hier, la bourse a chuté assez fortement en réaction, je dirais, à la réaction du président Trump. Je pense que les marchés financiers voyaient d'un bon œil que les tarifs soient annulés parce que lorsqu'on les a imposés, on disait, bien là, ça va créer de l'inflation, on va réduire la productivité, etc. Donc, les enlever, je pense que les marchés voyaient ça comme bien, mais là, quand ils ont vu la réponse de Trump, ils ont moins aimé ça. Et du côté de l'Europe, l'Europe avait, dans la foulée des tarifs imposés l'an dernier, avait signé un accord avec les Américains, là, parce qu'il y avait eu une riposte à l'époque de l'Europe, puis là, ils s'étaient mis ensemble, dire OK, mais là, on va se calmer un peu, puis il avait signé un accord, puis il devait être ratifié par le Parlement européen, puis là, l'Europe a dit, mais là... qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Vous ne respectez pas votre parole, donc nous, on ne ratifiera pas tout de suite l'accord. Donc, vous voyez un peu là, le genre, la Chine a également réagi et ils disent qu'ils suivent ça. Alors, ça ferait, comme vous le dites, beaucoup d'incertitudes économiques. L'autre source d'incertitude, c'est qu'on a chargé pendant plusieurs mois des tarifs qui sont maintenant décrétés illégaux par la Cour suprême. Est-ce que les gens vont demander un remboursement pour ces tarifs? Puis juste pour vous montrer l'ampleur du problème, là, on estime que le gouvernement américain, depuis avril dernier, a touché environ 175 milliards de dollars en tarifs. Donc, imaginez-vous s'il fallait commencer à rembourser à tous les toutes les entreprises qui ont exporté vers les États-Unis, là, puis qui ont été sujets aux tarifs. Les démocrates veulent soumettre un projet dans ce sens-là là, au Congrès, mais les républicains, probablement que ça passera pas. Les démocrates n'ont pas la majorité. Donc, il y a peu de chances de l'adopter. Il y en a qui disent que l'attitude du gouvernement américain, c'est en gros, OK, ils sont illégaux, mais amenez-nous en cours si vous voulez, puis ça va prendre des années avant que, qu'on décide si on doit vous rembourser ou pas. Certainement, Costco, là, qui était un des instigateurs de la première poursuite, va continuer à demander un remboursement. Puis il y a FedEx qui, en fin de semaine ou hier, a décidé de poursuivre le gouvernement pour se faire rembourser tous les tarifs que FedEx a perçus.
Mais au bout du compte, ce sont les citoyens états-uniens qui ont payé, parce que c'est eux eux qui achètent ces choses-là.
Alors, exactement. C'est pour ça que quand les tarifs ont été imposés, les économistes disaient que ça va générer de l'inflation. Pourquoi? Mais à un moment donné, c'était juste à court terme, des fois, les vendeurs, les revendeurs, les intermédiaires peuvent absorber une partie ou la totalité des tarifs pendant un petit bout de temps. Mais là, puis au début, on a vu ces c'est un peu ce qui s'est passé. Mm-hmm. Mais là, quand les tarifs restent, ben là, ça fait augmenter les prix pour les... Puis les consommateurs, puis pas juste les consommateurs, parce que parfois, il y a des entreprises qui vont importer des biens intermédiaires de d'autres pays. Par exemple, moi, je ne sais pas, des machines ou des robots du Japon ou des machines d'Allemagne pour mettre dans leur usine. Ces machines, ces robots sont sujets à des tarifs, donc ça augmente aussi le coût pour les entreprises. Puis éventuellement, ben ça va se répercuter sur les consommateurs. Vous avez raison.
Allons-y rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes. Les Jeux de Milan Cortina, on parle donc de médailles.
Bon, je voulais juste vous parler d'un petit article en fait qui avait paru dans la presse il y a peut-être au début des Jeux. Puis je l'avais gardé en réserve. On regardait ça vaut combien de médailles d'or. Là. Puis là, on ne parle pas des commanditaires ou les commandites que ça peut apporter, mais la valeur de la médaille physique elle-même. Mm-hmm. Alors, la médaille à Milan Cortina, la médaille d'or, valait 2 300 $. Je vais vous donner une idée. À Paris, il y a 2 ans, le prix était moins de la moitié à 1 045 $, toujours en dollars américains. Puis c'est un peu la même chose pour les médailles d'argent. Le prix a été multiplié par environ 2,5, facteur de 2,5 entre Paris et Milan-Cortina. Puis pourquoi on en parle? Bon, c'est un petit fait peut-être qui est amusant, mais aussi ça nous permet de parler un peu du prix des métaux précieux. Là, depuis quelques années, le prix de l'or, puis je dirais depuis un peu plus d'un an, celui de l'argent, les prix ont vraiment explosé. Puis pourquoi? Bien, les gens voient ces métaux-là comme un refuge face à l'incertitude économique des tarifs, l'inflation que ça peut apporter. Donc, on vit dans un monde économique qui est très incertain, qui est risqué. Alors, il y en a beaucoup qui ont décidé de mettre une partie de leur placement à acheter de l'or ou acheter de l'argent pour essayer de voir ça un peu comme une assurance contre l'incertitude. Mais là, plus il y a de gens qui en achètent, bien, plus le prix de ces métaux-là augmente. Là. C'est relativement facile d'en acheter, même pour des petits investisseurs. Il y a un paquet de fonds transigés en bourse là, qui suivent le prix de l'or. Donc, sans acheter des lingots d'or ou l'argent, là, on peut acheter ces fonds-là. Puis ces fonds-là suivent le prix. Donc, quand le prix augmente, bien, nous, notre mise de fonds va s'apprécier. L'argent avait augmenté beaucoup. Il a baissé en début d'année, mais là, il repart depuis une semaine ou deux. Là, ça repart un peu, puis l'or également. Est-ce que c'est trop pour en acheter? Là? Bon, j'ai pas de boule de cristal, ouais. Mais...
On n'ira pas dans des conseils là-dessus, mais bon,
c'est ça. C'est toujours bien de diversifier ses actifs, peut-être ouais. En avoir un petit peu dans son portefeuille, c'est pas une mauvaise idée, là, mais l'idée, c'est qu'il faut pas mettre, évidemment, tous ses œufs dans le même panier.
Oui, même si c'est des œufs d'or. Bon, OK. On va aller juste rapidement. Il y a un changement dans les heures d'ouverture pour les commerces, là.
Oui, on annonçait, là, le gouvernement s'est décidé. Le 2 octobre, le gouvernement avait dit, bien, on va essayer d'avoir des heures élargies pour le commerce de détail de 6 heures à 21 heures, 7 jours par semaine. Évidemment, sur une base volontaire des commerçants. Pour certaines régions du Québec, on avait Laval, Saint-Georges, en Beauce et Gatineau. Puis, donc, on faisait une expérience. Puis, apparemment, ça a dû bien fonctionner. Puis là, on étend ça pour toutes les petites et moyennes entreprises. On étend ça à la grandeur du Québec à compter du 11 mars. Mais il faut noter que c'est toujours sur une base volontaire. Donc, rendez-vous pas aveuglément à votre commerce favori un dimanche soir à 8h30 en espérant qu'il soit ouvert. Il va peut-être l'être, mais pas sûr. Donc, il faut quand même s'assurer des heures d'ouverture. Mais pour le consommateur, ça donne une flexibilité.
Ben oui, ben c'est à suivre. Merci beaucoup, Michel Poitvin.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Au revoir.
Une belle petite musique pour nous amener à la littérature. On va parler avec Anne-Marie Aubin. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Alors, liste préliminaire des prix du Libraire, catégorie album illustré du Québec. On a 3 livres à présenter sur les 8 en liste, c'est ça?
C'est ça. La liste est sortie la semaine dernière, il y a une semaine, et on connaîtra les finalistes le 10 mars, puis les lauréats le 28 avril. Et parmi tous les titres, j'en ai retenu 3. 2 avec des sujets graves et 1 avec un sujet plus léger, je dirais.
D'accord.
Alors, le premier, c'est aux éditions Comme des géants, qui ont, eux, 3 titres en lice, dont 2 de Jean-François Sénéchal, dont celui que j'avais parlé, qui s'appelle « Je n'aurai plus peur ». C'est illustré par Simone Ray. C'est un album de 34 pages sur un thème grave, qui est celui de la guerre. Et puis, c'est vu par les yeux d'un enfant qui s'inquiète. Et comme c'est aujourd'hui le 4e anniversaire de la guerre en Ukraine, j'ai pensé que ce titre-là pouvait être tout à fait à point pour aborder ce sujet de la guerre auprès des petits, là, je dirais, de 6 ans et moins. Là. Alors, les personnages, ce sont des animaux. Il y a très peu de texte. Les images sont très parlantes. C'est un maman lapin et son enfant. Et puis, eux, ils ont quitté le pays. On comprend qu'ils ont fui la guerre, puis qu'ils vivent dans un pays en paix, mais l'enfant a peur. Et il hésite à parler avec sa mère de ses peurs. Il lui dit, hier, il est arrivé quelque chose à l'école. Tu veux en parler? Je le sais pas. Sa mère dit, inquiète-toi pas, tu me le diras quand tu seras prêt. Et cette formule revient à plus d'une reprise dans le texte. Ça crée une formulette que les enfants peuvent voir venir, mais aussi un rythme. Et ça témoigne de l'hésitation. Pourquoi cet enfant-là ne veut pas le dire? Puis c'est quoi qui s'est passé là? Ça augmente le mystère. Puis à un autre moment, il lui dit, est-ce que tu penses que j'ai du courage? Ben, il dit, ben oui, t'as du courage. Il dit, est-ce qu'il va falloir repartir encore dans un autre pays? On voit le traumatisme de l'enfant qui est dans l'insécurité totale. Et là, il lui dit, ben non, c'est ici qu'on vit maintenant. La guerre est loin d'ici. C'est normal d'avoir peur. Tout le monde a peur, même des araignées, de choses banales, mais ça va aller, ne t'en fais pas. Et finalement, il finit par lui dire qu'il y a quelque chose qui le tracasse à l'école, sans trop être explicite. Ce qu'il dit, c'est qu'il veut parler à la directrice. Il dit, moi, je vais lui dire que j'ai peur et que j'en ai assez qu'on fasse du mal aux gens. Alors là, les illustrations nous montrent qu'il y a effectivement de la violence à l'école de différents types. Et puis, bon, ben, elle dit qu'elle va aller avec lui demain, puis il n'y aura pas de problème. Puis là, il va se coucher en disant, j'ai moins peur de demain. Alors, c'est minimaliste, c'est des petits dessins gentils, c'est plein de tendresse entre l'enfant et sa maman, mais on sent qu'à l'école, à travers la fenêtre, au dehors, il y a des choses graves qui se passent. Et c'est un album tout à fait désigné pour aborder les conflits qui peuvent se passer dans d'autres pays avec les tout-petits qui ne sont pas toujours au courant et aussi qui peuvent peut-être vivre à côté d'enfants qui vivent ce traumatisme-là. Alors, très, très bel album.
Alors, aux éditions Isatis, maintenant, il y a un titre finaliste?
Oui, eux, c'est « Sa casquette rose » de Muriel Comeau et Sylvain Cabot, un album de 32 pages. Ça s'intitule « Sa je précise SA, casquette rose, parce que c'est la casquette du papa de l'histoire qui vient de mourir. Ce papa-là aimait le rose. Déjà, c'est très bien de mettre le rose sur la tête d'un papa. Et puis, il apportait cette casquette-là pour tondre la pelouse, probablement faire du sport. Et puis là, ben, cette casquette-là, elle fait survenir plein de souvenirs. Puis elle suscite le chagrin chez la maman, le fils aîné qui est celui qui raconte l'histoire, et sa petite sœur Lily. Le fils, lui, il comprend des choses que sa petite sœur ne comprend pas. Donc, il vit le deuil très intensément et il a beaucoup de chagrin. Il souffre beaucoup de la perte de son papa. On sent qu'ils avaient une belle complicité puis qu'il y a des choses qu'il ne pourra plus faire, qu'il ne pourra plus vivre. Fait que c'est l'évolution d'un deuil à travers les saisons pendant un an. Mais même si c'est un sujet très grave, il va s'en sortir parce qu'il est bien entouré de parents, d'amis, même ses professeurs à l'école sont bienveillants. Et puis là, chacun, à chaque fois, lui dit, va rejoindre l'enfant et lui dit, tu sais, ça va s'estomper. Puis là, il comprend pas pourquoi tout le monde dit ça, mais en fait, c'est qu'il faut du temps. Mmh. Et au début, c'est très difficile, mais il y a des étapes. Et c'est un récit qui est réaliste, parce qu'on voit aussi que la maman a beaucoup de mal et que parfois, ils couchent tous les trois ensemble dans le même lit. C'est plein de tendresse, d'amour, de douceur, malgré la peine qu'ils vivent. Et puis, à un moment donné, dans son album photo, elle regarde des souvenirs, puis on voit des papiers mouchoirs par terre parce qu'elle pleure. Donc, c'est réaliste, mais en même temps, c'est plein de douceur. C'est une belle manière d'aborder avec des petits, je dirais d'autour de 4 à 8 ans, la perte d'un être cher, que ce soit un parent ou un ami, ou même peut-être un petit animal de compagnie. La perte, elle est là, et il faut donner du temps pour traverser ces épreuves-là, puis savoir bien s'entourer aussi. Donc, c'est très beau, c'est un très bel album chez Isatis.
Et puis, édition Les 400 coups. Il y a le sandwich aux grenouilles.
Oui, ça, c'est vraiment autre chose. On est ailleurs. Là, on est dans l'humour. Daniel Chaperon et Élodie Duhameau ont fait un album de 32 pages dans la collection Grimace pour 5 ans et plus. C'est un livre sur la gourmandise et la ruse, abordé avec beaucoup d'humour. Là aussi, les personnages, ce sont des animaux qui sont genrés. Alors, l'ours, il s'appelle Jean-Pierre, puis c'est un gourmet. Il pense tout le temps à manger. Et un matin, il se réveille avec l'idée là, que « Ah, ce matin, moi, ce que je veux, là, c'est un sandwich aux grenouilles. » Et là, il dit, chacun sait qu'il n'y a rien de plus délicieux qu'une grenouille tendre et juteuse coincée entre deux tranches de pain. Un véritable délice pour les palais les plus fins. Alors, il s'en va à la sandwicherie chez Ulrich pour acheter un sandwich. Et là, il lui demande très poliment un sandwich aux grenouilles pour emporter. Alors là, le serveur qui est là dit, un sandwich aux grenouilles? Oui, oui, oui. Avec un filet de sauce soya? Ça va de soi. Et un peu d'ail rôti? Bien sûr que oui. Une feuille de laitue, c'est entendu. Un grain de poivre ou deux, c'est tellement mieux. Ah, oh, il dit dommage. Je viens de vendre le dernier. Oh non, ben, vous savez, c'est très recherché. Puis là, il répète la formulette. Parce que chacun sait qu'il n'y a rien de plus délicieux qu'une grenouille tendre et juteuse. Et là, c'est amusant parce que les enfants reconnaissent la formule. Mm-hmm. Alors là, lui, il n'en reste pas là. L'ours là, dit non, je veux savoir qui l'a acheté. Je veux récupérer le sandwich pour le manger. Alors, il dit, ben, c'était une dame avec des lunettes. Ça veut pas tout ce qu'il sait. Alors, il sort, puis là, il va rencontrer un renard, une marmotte, un mulot, et personne ne peut l'aider. Il dit, voyons, le sandwich n'est quand même pas envolé. Puis là, il lève les yeux, et sur la branche d'un arbre, il aperçoit une dame Corneille, avec des lunettes, qui est sur un arbre perché, et qui allait mettre dans son bec une sandwich aux grenouilles. Mais, clin d'œil à la fable Cowboy et le renard, il lui dit, attendez, avant qu'elle croque dans la sandwich, il lui propose un échange. Puis là, il essaie de négocier toutes sortes de choses et il va finir par obtenir ce qu'il veut, c'est-à-dire le sandwich. Mais là, une fois qu'il y a ça, il dit là, je ne peux pas manger ça ici, c'est trop bon, il faut que je trouve l'endroit le meilleur pour le déguster. Puis si je vais chez ma maman, elle va vouloir partager avec moi. Si je vais ici, il y a trop de bruit. Bref, là, il hésite. Et à un moment donné, là, il va trouver l'endroit parfait au bord d'une petite rivière, tout seul, isolé. Puis il dit, en plus, il faut fermer les yeux, hein, parce que les yeux fermés, tout goûte meilleur. Mm-hmm. Alors là, au bord de la rivière, il va croquer, mais là, je vous dis pas la fin. Il y a vraiment un très bon punch. C'est très drôle. Il y a beaucoup d'humour. Les enfants qui savent pas lire vont être capables de comprendre toute l'histoire parce que les personnages sont tellement expressifs et il y a des bulles, il y a des indices dans des espèces de dessins qui montrent la colère, l'impatience, qui font que on peut improviser avec un non-lecteur, puis il va s'amuser royalement. Puis une personne adulte qui lit va s'amuser aussi parce que c'est sur le goût, la gastronomie, la gourmandise, le plaisir de manger. Et puis bon, ben à la fin, c'est surprenant aussi comment est-ce que ça se passe. Donc moi, je trouve que c'est un très beau livre pour accrocher peut-être des non-lecteurs qui sont pas attirés vers les livres, parce qu'un sandwich aux grenouilles, déjà juste un titre comme ça, c'est très drôle. Et ce qu'il y a à l'intérieur aussi est très drôle. Alors, c'est un beau succès des éditions 400 coups dans la collection Grimace.
Il nous reste du temps. Est-ce qu'on peut quand même parler rapidement des autres titres qui sont en liste?
Exact. Oui, tout à fait. Alors, il y en a dont j'ai pas parlé. Aux éditions Comme des géants, je peux dire deux mots sur Milo le chevalier, qui est tellement fier d'être chevalier. C'est un texte de Grégoire Laforce et Charlotte Parent, qu'il ne veut jamais sortir de son armure jusqu'au jour où il va prendre la pluie. Et là, ça va rouiller et ça ne va pas bien aller. Il y a aussi un autre titre qui est finaliste parmi la liste, toujours chez Comme des géants, Colette n'a besoin de personne, de Jean-François Sénéchal, le même auteur que fait « Je n'aurai plus peur », illustré par Pascal Bonenfant. Alors, l'héroïne, c'est une petite abeille très débrouillarde, très savante, très solitaire, qui a besoin de personne, sauf quand on lui demande de raconter ses exploits. Alors, c'est un texte plein d'énumérations, avec des cases comme dans une bande dessinée. Les dessins sont très mignons et c'est un texte très amusant aussi. Alors que je peux vous présenter aussi aux éditions La Bagnole, qui a deux titres finalistes dont je vais parler dans une prochaine chronique, mais vous dire deux mots, L'étonnante maison de Madame Victoria de Nicolas Paquin et Lucie Crovato, c'est sur une maison ancestrale. Alors, l'auteur parle d'une vraie maison, je crois qu'il a acheté, et a raconté une histoire là-dessus. Et il y a Un cadeau de Noël en novembre de Stéphane Laporte, illustré par Jack Golting, dont on a beaucoup parlé parce que c'est une histoire autobiographique de Stéphane Laporte à propos de ses patins là et oui. Du hockey. Puis pour terminer, chez M. Ed, il y a Le jardin de M. Kuroki de Anne Renault et elle. O'Hara Hale, dont je parlerai plus tard, parce que je ne l'ai pas lu, celui-là. Tout ce que je sais, c'est qu'il est finaliste. Voilà.
Ben, merci beaucoup, Anne-Marie Aubin, et à la prochaine fois.
À la prochaine, au revoir.
Au revoir. J'ai le temps de vous parler d'un article dans Urbania du 20 février au Québec. Des centaines de personnes en situation de handicap se retrouvent dans une impasse majeure avec la suspension du programme d'adaptation à domicile, le PAD. Depuis avril 2025, la Société d'habitation du Québec n'accepte plus de nouvelles demandes pour ce programme qui offrait pourtant des subventions allant jusqu'à 50 000 $ pour rendre les logements accessibles. Alors, pour les victimes d'accidents domestiques comme François Canty, devenu tétraplégique après une chute sur un trampoline, l'absence de ce soutien financier signifie l'impossibilité de retourner chez soi. Contrairement aux accidentés de la route ou du travail, ces personnes ne bénéficient d'aucune couverture de la SAC ou de la CNESST, les laissant seules face à des coûts de rénovation dépassant souvent les 100 000 $. Le gouvernement justifie cette mise sur la glace par la hausse marquée des demandes passées de 170 à 250 dossiers mensuels en 2 ans. Les détails sur l'avenir du programme ne seront connus qu'au dépôt du prochain budget provincial, laissant entre-temps des milliers de citoyens dans l'incertitude quant à leur autonomie résidentielle. Un petit rappel météo, donc c'est froid, ça va être froid partout au pays, sauf sur la côte ouest où il y a du soleil et puis il fait plus 9. Mais bon, c'est froid, c'est normal, c'est le temps de l'année, mais c'est pas aussi froid qu'on a connu, mais disons que ça mord un peu quand on sort. Ça va se réchauffer au cours de la semaine, de la journée de la semaine. Il y a toujours les restants de cette tempête de neige donc qui balaye une partie des provinces de l'Atlantique. Ça va se terminer aujourd'hui. Et j'ai le temps de dire merci à Mathieu Tessier, merci à Hélène Denis, que je remplace pour le restant de la semaine et la semaine prochaine. Je m'appelle Denis Martin Chabot. Merci d'avoir été là. À demain.